VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manela qui donne la présentation de cette édition du lundi 26 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. Des affrontements devant le Parlement tunisien au lendemain de la suspension de ses activités par le président Kais Saied et du limogeage du Premier ministre. En RDC, la police réprime une manifestation d'étudiants au campus de l'université de Kinshasa.
La présence policière est encore très remarquable, mais le calme est resté. Donc les étudiants ne manifestent plus.
Au Nigeria, un émissaire envoyé pour payer une rançon est lui-même pris en otage par les ravisseurs d'une centaine d'élèves. Première visite en Chine d'une haute responsable de l'administration Biden. Pékin veut que Washington cesse de le diaboliser. Dans 10 minutes, vous suivrez également notre journal des JO de Tokyo. Mais d'abord, les nouvelles du monde. En Tunisie, des heurts ont éclaté aujourd'hui devant le Parlement barricadé par l'armée après la suspension des activités par le président Kais Saied et le limogeage du Premier ministre. Le point avec Nani Tetalani.
Plusieurs centaines de partisans du président Saied et d'Ennahda, le principal parti islamiste au Parlement, ont échangé des jets de bouteilles et de pierres à Tunis. « Nous voulons entrer au Parlement », a déclaré la vice-présidente de l'Assemblée, Samira Shawashi. « Nous sommes les protecteurs de la nation, appliquant les instructions », ont rétorqué les militaires qui les ont empêchés d'accéder au Parlement. Rachid Ghannouchi, le leader d'Ennahda, estime que les mesures prises par le président Kais Saied visent à changer la nature du régime politique en Tunisie. Son parti dénonce un coup d'État contre la révolution et contre la constitution. De son côté, M. Saied soutient que la Constitution n'autorise pas la dissolution du Parlement, mais lui permet de la suspendre en cas de danger imminent. Après avoir démis de ses fonctions de Premier ministre, M. Saied a annoncé le gel des activités du Parlement pour 30 jours. Il s'est aussi octroyé le pouvoir exécutif avec l'aide d'un gouvernement dont il désignerait le nouveau chef.
Selon Gordon Gray, directeur des opérations du Center for American Progress et ancien ambassadeur des États-Unis en Tunisie, les actions du président Saied hier ont créé la plus grave menace pour la démocratie tunisienne depuis la fin du régime Ben Ali chassé du pouvoir en janvier 2011. Les amis de la Tunisie, en particulier les États-Unis et l'Union européenne, devraient demander au président Saied de revenir sur ses mesures, précise M. Gray. En plus de la pandémie, le chômage est endémique. Et la Tunisie a besoin d'investissements étrangers pour générer des emplois. Washington, en tant qu'ami de la Tunisie, devrait rappeler à Saied que le régime autoritaire décourage de tels investissements. En RDC, des troubles ont éclaté sur le campus de l'université de Kinshasa. La police a réprimé une manifestation d'étudiants qui protestaient contre la mort samedi d'un de leurs camarades. Honoré Chama a été tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo. Mais les parents de la victime affirmaient le contraire. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Toujours en RDC, le volcan Nyiragongo a projeté de la cendre samedi. Deux mois après l'éruption qui avait causé la mort de 32 personnes à Goma dans l'Est, cette chute de cendres est sans rapport avec une activité éruptive, ont affirmé les experts qui mettent cependant en garde contre une poussée de maladies respiratoires. L'observatoire volcanologique de Goma a demandé à tous les habitants de cette ville d'observer les règles d'hygiène en couvrant soigneusement les aliments et la vaisselle et éviter de boire de l'eau de pluie. Au Mali, l'homme accusé d'avoir tenté le 20 juillet d'assassiner à l'armée blanche le président de transition, le colonel Assimi Goïta, est décédé. Selon un communiqué du gouvernement, il est décédé après son admission au CHU Gabriel Touré, puis au CHU du Point G des hôpitaux de Bamako. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête, car il ne s'agissait pas d'un élément isolé. Au Nigeria, le procès pour trahison de Nnamdi Kanu, le chef de l'organisation IPOB, peuple autochtone, proscrit du Biafra, a repris aujourd'hui, mais aussitôt a été reporté en l'absence de la personne inculpée. Ce procès avait été suspendu il y a 4 ans parce que l'homme avait fui le pays. Aujourd'hui, il fait face à 11 chefs d'accusation, dont terrorisme et possession illégale d'armes. Toujours au Nigeria, les ravisseurs de 136 enfants dans une école musulmane du centre du Nigeria ont enlevé l'émissaire envoyé pour payer leur rançon et ont refusé de relâcher les écoliers, a déclaré le directeur de l'école. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Les ravisseurs ont appelé et confirmé qu'ils ont reçu l'argent mais qu'ils ne voulaient plus libérer les enfants parce que le montant était trop faible, a déclaré Aboubakar Alassane, directeur de l'école privée musulmane Saliou Tanko à Teguina dans l'état du Niger. Ils ont également dit qu'ils retenaient l'émissaire avec les enfants jusqu'à ce que nous versions davantage, a-t-il ajouté. Kassim Teguina, un homme âgé de 60 ans, s'était porté volontaire. Le 20 juillet, les parents et les responsables de l'école l'ont envoyé remettre une rançon de 30 millions de naira, environ 61 000 euros pour la libération des enfants. Les ravisseurs avaient initialement demandé 200 millions de naira, près de 410 000 euros, mais avaient ensuite accepté les 30 millions de naira récoltés par les parents et par des dons, notamment de l'étranger. Le 30 mai, environ 200 hommes armés à moto ont envahi cette école privée de la ville de Teguina pour enlever 136 élèves et des enseignants. Une dizaine d'entre eux ont réussi à s'échapper à la mi-juin.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden reçoit ce soir le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi. Il doit lancer une nouvelle phase de la présence militaire américaine en Irak avec une fin formelle des opérations de combat, mais sans remettre en cause la présence de troupes dans le pays. Un haut responsable de la Maison-Blanche n'a pas donné de précision sur ce que ce changement signifierait en matière d'effectifs, mais assuré qu'il s'agissait d'une évolution significative. Les relations entre les États-Unis et la Chine sont dans une impasse et Washington doit cesser de diaboliser Pékin. Tels sont les propos lancés par un dirigeant chinois lors de la première visite en Chine d'une haute responsable de l'administration Biden. Le point avec Rosine Munezer.
La Chine exhorte Washington à changer son état d'esprit erroné et sa politique dangereuse, a critiqué le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Xi Feng, selon un compte-rendu rapporté par la diplomatie chinoise. Fondamentalement, c'est parce que les Américains voient la Chine comme un ennemi imaginaire, a dénoncé M. Xi lors d'une entrevue avec la numéro 2 de la diplomatie américaine, Wendy Sherman, en visite à Tianjin, dans le nord de la Chine. Le gouvernement chinois dit avoir remis à l'émissaire de Washington une liste de méfaits commis sous l'ex-administration Trump et que Pékin souhaite voir rectifiés, dont la levée des restrictions de visa pour les membres du Parti communiste chinois et pour les étudiants chinois. Le département d'État, dans un communiqué, précise que Mme Sherman a évoqué la répression à Hong Kong et le génocide au Xinjiang, une région habitée par des musulmans ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. Elle a aussi appelé la Chine à autoriser une deuxième phase d'enquête sur les origines du Covid-19, une demande de l'OMS qui a déjà été catégoriquement rejetée par Pékin.
Ici aux États-Unis, le plus grand incendie de Californie a déjà détruit l'équivalent de la ville de Chicago en végétation. Le feu est tellement important qu'il génère désormais son propre climat, ce qui rend le travail des pompiers qui le combattent encore plus compliqué. Claire Morisbourg.
Dans les forêts du nord de la Californie, 5400 soldats du feu sont mobilisés face au Dixie Fire. Ce brasier n'a fait que grossir depuis la mi-juillet, attisé par la forte chaleur, une grande sécheresse et des vents continus. Cet incendie est tellement grand qu'il a créé ces derniers jours des pyrocumulus, ces nuages qui provoquent foudre, vent violent et alimentent le feu. Dans ces conditions, les braises peuvent facilement voler à plus d'un kilomètre, selon un porte-parole des pompiers. Des secouristes venus d'autres États jusqu'en Floride sont venus prêter main forte. Malgré sa superficie, le Dixie Fire a pour l'instant surtout progressé dans des zones extrêmement reculées. Jusqu'ici, seules quelques dizaines de maisons et bâtiments ont été détruits. Les feux de forêt sont courants en Californie, mais cette année, ils ont ravagé 3 fois plus de végétation qu'à cette époque en 2020, la pire année de l'histoire de Californie en termes d'incendie.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Get into the game. C'est le moment de suivre notre journal des Jeux Olympiques de Tokyo avec Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les Jeux Olympiques de Tokyo se poursuivent avec des fortunes diverses pour les Africains. Ce lundi, la République démocratique du Congo a récolté sa première victoire. Le Burkina a failli en taekwondo, mais le week-end a été tout en or pour la Tunisie en natation. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, le boxeur David Chama a offert à la RDC sa première victoire au JO en battant par points le Camerounais Seyin Senge 3-2. C'est une confirmation pour le Congolais qui avait battu le Camerounais lors du tour qualificatif à Dakar. Au prochain tour, David Chama fera face à l'Haïtien Darrell Valsin Jr. ce jeudi. En taekwondo, Faisal Savadogo n'a pas saisi sa seconde chance. Battu d'entrée 13-6 chez les moins de 80 kg hommes par le russe Maxim Kramtsov, en huitième de finale, le Burkinabé repêché s'est de nouveau incliné face au croate Tony Kanaet 30-10. Autre échec burkinabé en judo, Lucas Diallo a été immobilisé par Cédric Bessy en 1 minute 15 secondes chez les moins de 73 kg hommes. Lors des 16e de finale, la bonne nouvelle vient des Tunisiens. À seulement 18 ans, Ahmed Ayoub Hafnaoui a remporté à la surprise générale le 400 mètres nage libre des Jeux Olympiques. Une performance saluée par l'Américain Michael Phelps, 23 fois médaille d'or olympique.
Il nage incroyable. Il a battu à peu près de 4 secondes et demie à 5 secondes son record personnel. Donc être capable de nager comme ça et de sortir du couloir 1, le couloir 8, excusez-moi, c'est ce dont je parlais. Je pense à peu près toute la matinée. La différence entre ces Jeux olympiques et ceux du passé, à mon avis, c'est que chaque personne en finale a une chance de gagner une médaille d'or, n'est-ce pas? Peu importe si vous êtes dans la voie numéro 1, la voie 8, la voie 4, cela n'a pas d'importance. Chaque être humain dans cette finale est proche.
L'Américain Michael Phelps, 23 fois médaillé d'or olympique. Au tennis de table, la Nigériane Edem Ofion a battu la Hongroise Madaras Dora 4-1. L'autre Nigériane, Oshonaike Olufunke, a elle été dominée 1-4 par Liu Huan des États-Unis, tandis que la Camerounaise Hanfou Sara a perdu contre la Bulgare Trifonova Polina 1-4. Du côté des hommes, le Sénégalais Ibrahim Diaw s'est incliné 2-4 contre le Singapourien Chuse Yu Clarence.
Merci Bagassi. Dans les sports collectifs, en football, la Côte d'Ivoire a tenu tête au Brésil pendant qu'en basketball, le Nigeria a pillé les Chines chez les hommes. Nani Talani.
Les seuls représentants africains en basketball, les Nigérians chez les hommes, ont été défaits par l'Australie 67-84 dans le groupe B. L'équipe féminine nigériane de basketball ouvre sa campagne demain contre les favorites américaines. Cette première journée du tournoi de la balle au panier a été aussi marquée par la défaite des États-Unis face à la France 76-83 dans le groupe A. En football, la Côte d'Ivoire a tenu tête au Brésil 0-0. De son côté, l'Afrique du Sud a mené 3 fois au score, mais s'est finalement inclinée 4-3 devant la France. Dans le groupe C, l'Argentine a fait plier l'Égypte 1-0. Dans le rugby à 7, l'Afrique du Sud a battu le Kenya 14-5. Et s'est aussi imposé devant l'Irlande 33-14. Le Kenya est tombé de nouveau face aux Américains 19-14.
Merci Nanit. Mauvaise nouvelle, l'Algérien Taoufik Makhloufi ne pourra plus concourir. Le champion olympique du 1500 mètres en 2012 a déclaré forfait pour ses JO en raison d'une blessure au genou. Je me trouve contraint d'écouter mon corps et ce genou récalcitrant qui a longtemps perturbé ma préparation, tout comme le Covid-19 que j'ai contracté l'an passé, a écrit l'athlète dans un communiqué. Makhloufi, 33 ans, a également été vice-champion olympique sur 800 mètres et 1500 mètres à Rio en 2016. Bonne nouvelle par contre, pour les médaillés des JO, ils pourront enlever leur masque pendant 30 secondes. Le temps de faire des photos sur le podium, annonce le Comité international olympique. C'est ici que se referme cette page spéciale consacrée aux Jeux olympiques.
C'était notre journal des JO de Tokyo. Merci à Kuba. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Situation tendue ce lundi au campus de Kinshasa suite à la mort d'un étudiant tué samedi par un policier dans un commissariat de la périphérie de Kinshasa. Pour comprendre ce qui s'est passé, Marius Munga a posé la question à Thierry Kambundi, journaliste de Top Congo FM sur place à Kinshasa.
Pour le moment, il y a un important renfort de la police qui est arrivé sur place il y a pratiquement une heure. Il y a eu à la fin un arrangement entre la police et les étudiants pour que leur manifestation se limite au site, donc qu'elle se déroule sur le site universitaire, alors que certains, en complicité avec des jeunes des quartiers environnants, voulaient sortir du site universitaire pour aller un peu plus loin vers l'intendance. Donc la présence policière est encore très remarquable, mais le calme est restreint, donc les étudiants ne manifestent plus.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de cet étudiant?
Il y a deux versions. L'étudiant se nomme Honoré Chama Kouete. Il était en G2 lettres à l'université de Kinshasa. Il se retrouvait avec certains de ses camarades sur un site, on va dire, très reculé dans la commune de Selembaou, dans le cadre d'un travail pratique qui consistait à réaliser un sketch dans des conditions du village. Raison pour laquelle ils avaient choisi ce quartier un peu reculé. Et lui était d'ailleurs le principal acteur et jouait le rôle de chef coutumier. Il devait s'entourer de quelques notables. C'est en plein tournage, sous la responsabilité d'un des assistants de l'université, qu'un élément de la police est d'abord arrivé. Elle leur a posé quelques questions sur l'autorisation qu'il devait avoir pour tourner. Et en fin de compte, il a dû négocier avec eux. Ils leur ont remis quelque chose. Il les a laissés poursuivre le tournage. Puis derrière lui, trois autres policiers, apparemment des collègues du premier, sont arrivés et ont commencé à leur poser une série de questions. Ils ont arrêté l'assistant de ces étudiants au commissariat. Mais arrivé sur place, la police ne voulait pas de la présence des étudiants là, alors que ces derniers mettaient la pression pour voir leur assistant libéré. C'est donc dans ces échanges-là, selon le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, les étudiants avaient commencé à lancer des projectiles à la direction de la police, mais la famille qui a recueilli les témoignages des camarades du décédé nous a fait voir que les étudiants ne lançaient pas des projectiles, mais faisaient pression pour que la police libère leur assistant. C'est dans ces entrefaits que l'un des policiers a dégainé. Il a tiré deux balles. Honoré Chama Kouete a malheureusement été touché au ventre et il est mort sur place. L'une des étudiantes était également touchée à la tête, mais ce n'était pas si grave.
Le policier qui a tiré sur l'étudiant, est-ce qu'il a été arrêté?
On va dire malheureusement, il est en fuite. Mais la police, dans son communiqué, a signalé qu'il était vivement recherché et avait promis qu'il serait arrêté.
Thierry Kambundi, journaliste de Top Congo FM à Kinshasa. Au Bénin, les gouvernements successifs ont toujours promis d'éradiquer la corruption. Mais aujourd'hui, le phénomène est plus que jamais présent dans tous les secteurs d'activité du pays. Quels sont les obstacles à la lutte efficace contre la corruption? Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Parmi les maux dont souffre l'administration publique béninoise, la corruption est sans doute le plus visible et le plus criard. Au Bénin, de très nombreux agents de l'État pratiquent des actes de corruption de façon quotidienne dans l'exercice de leurs fonctions.
Nous avons noté que la première tourne autour de la corruption au niveau de la santé. L'État émet des ressources, mais c'est des agents dégénérés de la santé, particulièrement certains agents, dits garçons de salle ou infirmiers, qui en profitent pour faire des trafics de médicaments. La deuxième, ça concerne la petite corruption au niveau des policiers, au niveau des gendarmes, au niveau des douaniers. Là où nous avons reçu surtout des plaintes, ça concerne les actes administratifs.
Si au niveau des gouvernements précédents, celui de Talon, plusieurs facteurs ont empêché la réussite du combat, le président Patrice Talon a promis se servir des erreurs de ses prédécesseurs pour définitivement mettre fin à la corruption. Patrice Talon.
Les crimes économiques sont désormais imprescriptibles, notamment en ce qui concerne le bien public. Alors ceux qui aujourd'hui vont pour échapper à cette dynamique, vont répondre un jour. Je souhaite que dans notre pays, enfin, on puisse répondre de ces actes. Qu'enfin, chacun puisse avoir sa conscience derrière lui et avoir son regard sur cette action que nous sommes en train de poser et que cela puisse nous amener à améliorer nos comportements et à mieux respecter la chose publique.
À travers le renforcement de l'arsenal juridique en matière de lutte contre la corruption, le gouvernement Talon a décidé de mieux lutter contre la corruption. Mais dès les premières arrestations, le gouvernement est accusé de faire une chasse aux sorcières.
Quand on interpelle quelqu'un, au lieu de se mettre à dire acharnement, acharnement, posons-nous la question de savoir si ce qu'on lui reproche est réel d'abord. Pourquoi c'est lui qu'on va chercher et non pas quelqu'un d'autre, plutôt que de voir l'acteur politique derrière.
Pour la société civile, il était temps que le combat porte ses fruits, même si certains ont pensé que la lutte est sélective. Jean-Baptiste Elias.
La lutte contre l'impunité à l'ère du président Talon est beaucoup plus marquée. Que l'on va l'apprécier comme étant dans un camp contre un autre, nous qui travaillons dans le domaine, nous estimons qu'il faut bien commencer par un bout. Nous allons prier le président de la République de continuer dans cette voie. Et s'il y avait effectivement des personnalités qui sont dans son camp et qui sont concernées par cette lutte, on n'hésite pas à les amener devant la justice pour qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures.
Le président de la République doit continuer la lutte contre la corruption, même si elle emporte ses proches collaborateurs. Martin Assogba.
Le président Talon n'a pas le choix. Il est obligé de continuer. Si entre-temps, il a balayé chez les autres, comme certains le disent, et qu'il n'a pas balayé chez lui, mais il ne fera pas 50 ans au pouvoir. Non.
La traque des fonctionnaires corrompus a commencé et fait de nombreuses arrestations. La population se désole de constater que même dans le camp du président de la République, il y a des cadres sans aucun respect pour la chose publique. Pour certains, le changement doit s'opérer chez ceux qui gèrent le Bénin.
Il a dit qu'il veut gérer bien le pays. Il a commencé. Et voilà où nous sommes aujourd'hui. Et par-ci, par-là, c'est un scandale un peu partout. Ça ne va pas. Si ça va, nous n'allons plus constater ce genre de choses. C'est parce que ça ne va pas qu'on constate encore. Changer en haut là-bas, et puis nous, on change aussi en bas ici.
Certains béninois sont têtus. Malgré les réformes effectuées par ce régime et véritable lutte contre cette corruption.
La réussite de la lutte contre la corruption demande une nouvelle dynamique. Le mal perdu malgré les réformes institutionnelles et techniques et se nourrit au quotidien. Le véritable développement passe par la bonne gouvernance et sur ce plan, le Bénin semble toujours chercher la bonne méthode. De côté nous, je n'ai plus à donner pour vous à ce cas.
La firme pharmaceutique sud-africaine Aspen a annoncé lundi la livraison de son premier lot de vaccins fabriqués localement. Pour Aspen, ce sont les premiers vaccins anti-Covid-19 produits sur le continent africain par une firme africaine pour des patients africains. John Lindon a joint le docteur Constantin Tienku au Novant Health Prince William Medical Center en Virginie.
Après à peu près 6 mois de vaccination, nous avons conclu que le vaccin marche, il est efficace, il prévient contre les maladies sévères et contre la mort. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu la firme Johnson & Johnson en Afrique, en Afrique depuis un an. L'usine Aspen a sorti ses premiers vaccins aujourd'hui et c'est une innovation pour l'Afrique et pour nous, les Africains. Parce que depuis la sortie du vaccin, nous avons une sorte de résistance des Africains à se faire vacciner. Alors maintenant que le vaccin se produit chez nous, nous espérons que nous ferons mieux.
Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans la perception? Si oui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les Africains feront confiance à ce vaccin-là?
Je pense que quand on entre dans le processus de production et de fabrication, il y a aussi un volet éducatif. Plus les gens sont bien éduqués sur le vaccin, plus ils prennent le vaccin. On a même pu démontrer que plus les gens sont plus aisés, plus ils prennent le vaccin. Ça veut dire qu'il y a un rapport direct entre l'information, l'éducation, la connaissance et l'acceptation du vaccin. Ça veut dire que les gens plus nantis ont pris le vaccin à un taux très élevé par rapport aux gens moins nantis. Ça veut dire que plus vous avez accès aux soins, plus vous avez accès aux médecins, plus vous avez accès aux informations, vous êtes plus susceptible de recevoir ce vaccin.
Alors, autre sujet de préoccupation à propos du COVID-19, c'est le Sénégal. Le ministère de la Santé a fait savoir lundi que les hôpitaux de la capitale Dakar sont proches de la saturation, avec quasiment 99% de taux d'occupation des lits à cause d'un afflux de malades de COVID-19 et le personnel est épuisé et débordé. Comment gérer une telle situation selon vous?
Ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre et c'est partout. Il y a le variant Delta qui est en train de faire des rages. Pour deux raisons. Le variant Delta rend malade un peu plus que le variant que nous avons d'habitude. L'augmentation de saturation est de 60% avec le variant Delta et il rend les gens encore plus malades. Ceci dit, le monde est en train d'entrer dans une autre phase de cette pandémie. Et heureusement, nous avons les vaccins et nous avons même quelques médicaments qui sont efficaces. Mais nous devons supplier aux gens. Prévenir mieux que guérir, il faut que nous commençons à prendre le vaccin et très rapidement. Sinon, nous allons être débordés très peu d'ici très peu.
Le docteur Constantin Tchienkou, médecin au Novant Health Prince William Medical Center, en Virginie.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la semaine s'annonce décisive pour un plan d'investissement dans les infrastructures délabrées du pays. Les précisions de Michel Quinn de la VOA, récit Jacques Aristide.
Port en vue de moderniser les routes, les ponts ou encore l'Internet à haut débit pourront atteindre une étape cruciale cette semaine si un accord entre démocrates et républicains est trouvé afin d'investir 1 200 milliards de dollars dans les infrastructures. Le Sénat pourrait être appelé à voter pour ouvrir le débat, mais les détails sont toujours en cours d'élaboration par un groupe de sénateurs républicains et démocrates sur des questions qui incluent les dépenses dans les transports publics. Pour le sénateur Rob Portman de l'Ohio, principal négociateur républicain au sein du groupe bipartite, le plan représente un moment rare, apte à indiquer que les deux partis politiques peuvent faire des compromis afin de faire avancer les choses. Le sénateur Portman l'a dit dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
C'est donc avant tout une bonne chose à faire pour le pays, mais c'est aussi quelque chose qui a fait l'objet d'un processus de recherche, de consensus bipartisan que nous devrions faire davantage dans cette ville.
Une fois conclu entre ces élus des deux partis, l'accord devra relever un défi de taille. 60 voix sont requises pour qu'il soit adopté au Sénat. Ce vote repose donc sur l'adhésion de certains sénateurs républicains dans une chambre haute équitablement divisée. Les élus en faveur d'un tel accord ne peuvent pas se permettre de perdre un seul vote, mais d'autres veulent que ce plan bipartisan soit lié à un projet parallèle qui a pour but d'investir 3 500 milliards de dollars dans les infrastructures dites humaines qui incluent des dispositions en matière de garde d'enfants, d'éducation et de changement climatique. La démocrate Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a déclaré qu'elle ferait examiner le plan bipartisan uniquement après l'adoption par le Sénat du plan d'investissement de 3 500 milliards de dollars. Elle est d'avis que le Sénat peut le faire par le truchement d'un processus appelé réconciliation, un moyen de promulguer des lois sur les impôts, les dépenses et d'autres mesures financières avec une majorité simple dans cette chambre. Nancy Pelosi lors d'un entretien dans This Week de la chaîne ABC.
Le président a dit qu'il voulait d'un projet de loi bipartisan et c'est ce que nous voulons tous, mais ce n'est pas la limitation de la vision du président. Il veut reconstruire mieux, il veut le faire d'une manière qui, encore une fois, implique beaucoup plus de personnes dans la prospérité de notre pays.
L'état des infrastructures américaines a longtemps été classé derrière à ceux des autres pays développés. Avec les plans d'investissement parallèles, les dirigeants du pays, y compris le président Joe Biden, un démocrate, sont appelés à voir si les deux partis peuvent s'unir pour faire avancer les choses. Le temps presse, car les deux chambres du Congrès vont entamer une pause estivale en août.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez en compagnie d'Eric Mandelakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.